Radio Campus.
Rencontrer quelqu'un, c'est pas une question de don, c'est une question de chance.
Non, non, mais c'est bon, arrête.
Bah, qu'est-ce qu'il a? Il est aveugle, le pauvre garçon?
Oh, il est trouillard, le pauvre garçon.
Ah, tu vas me torcher. Torcher la gueule à faire tes jingles.
Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à parole. Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées. Le moulin à parole.
Radio Campus dans tes oreilles. Radio Campus, la radio des rêves. Radio Campus 88.3.
Radio Campus 81.3, toujours en direct depuis le festival Urbrain, samedi 7 octobre, à l'occasion donc de l'expression de la diversité des cultures urbaines, et nous accueillons différentes associations. Je rappelle qu'à la technique, c'est Sayad, et nous accueillons donc la ressourcerie AAA, que les plus fidèles auditeurs auditrices de Radio Campus ont reconnu, puisqu'un reportage y avait été consacré il y a quelques années sur le site de la Redac Pop, mais depuis, bien des choses ont changé. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Johan.
Bonjour.
Emeline.
Bonjour.
Et
Antoine.
Antoine, c'était l'invité mystère. Non, alors vous allez me parler chacun de votre fonction au sein de la ressourcerie.
Ok, alors moi je suis président de l'association, donc depuis un petit moment maintenant, quelques années, et puis bah, je représente l'association auprès de partenaires, et je fais attention à ce que tout se fasse bien entre les salariés et les bénévoles.
Moi, je suis en service civique depuis septembre. Voilà, donc j'ai trouvé ça sur internet et puis ça m'a pas mal plu et j'ai rejoint la ressourcerie. Voilà.
Et moi, je suis animatrice, donc je sensibilise le public sur des événements comme aujourd'hui, par exemple, sur le réemploi. Et j'ai commencé en même temps qu'Antoine, parce que début septembre.
Alors, il va être question de réemploi au cours de cette émission, mais tout d'abord, on va revenir sur le travail que réalise une ressourcerie au niveau local. Donc, la ressourcerie AAA de Saint-Jean-de-Bray, 21 avenue de Gay-Lussac, permet tout au long de la semaine, entre 10h et 19h, d'accueillir justement des personnes qui viennent déposer des objets. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Oui. J'ai déménagé, je suis venu me débarrasser de meubles, de livres, de disques, etc. Afin que des valoristes puissent justement, après, les mettre dans différents compartiments et puis les orienter dans la filière du réemploi.
C'est exactement ça. Alors, on est ouvert de 10h à 19h du mercredi au samedi, et lundi, mardi, ça a changé un peu, c'est 9h-16h30. Et donc oui, les objets qui nous sont apportés ou qui arrivent de déchetterie, parce qu'on est présent en déchetterie aussi pour sensibiliser les gens et leur dire bah, mettez pas tout à la benne, on peut récupérer des choses. Les choses peuvent resservir. Arrivent chez nous, donc rue Gay-Lussac, et les valoristes vont réparer, trier, nettoyer quand il y a besoin, faire des caisses, et donc bah, les caisses repartent en boutique.
Mmh. Avec 5% seulement d'objets non destinés au réemploi, et encore, je me rappelle lors de ce reportage, il y a des exceptions, puisque ce petit tas voilà, de 5%, tas, ouais. Des fois, des artistes ou des bricoleurs viennent chiner dedans et trouvent quand même...
Et nous-mêmes,
et vous-même, hein.
Nous-mêmes, en fait, on s'est rendu compte que c'était majoritairement du plastique. Donc on s'est doté de petites machines de recyclage plastique, c'est donc Precious Plastic, c'est des machines open source qu'on peut construire soi-même. Non, on l'a pas fait. On a acheté les nôtres à quelqu'un qui les a mises aux normes CE parce que pour bosser en atelier c'était bien. Et donc ça nous permet de ne plus renvoyer à la déchetterie ou donc à l'incinérateur ce plastique majoritairement constitué de boîtiers de DVD, de boîtiers de CD. De vaisselle jetable, des coque-ups parfois aussi, et avec ça donc on fait ça nous permet on retape des meubles, on refait des plaques qui nous permettent de refaire des tables basses, des petites poignées de porte, on fait aussi des petites choses comme des boîtes de rangement, des mousquetons, on a fait un banc, alors on a fait un banc avec 646 boîtiers de DVD. Voilà, et donc ça nous permet de traiter un peu tout ce plastique qui reste dans les 5% qu'on a dont on ne sait pas quoi faire, après les 60% de réemploi et les 30% de recyclage.
Et donc une nouveauté depuis ce reportage, parce que maintenant c'est une ressourcerie dans laquelle on peut venir justement acquérir des objets.
Oui,
ce qui n'existait pas avant, à l'époque du reportage.
Alors avant, on avait une boutique uniquement en centre-ville.
Au 106 rue de Bourgogne. 106
qu'on va ouvrir encore un petit peu jusqu'à la fin de l'année, mais qu'on lâche parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire et on n'a pas les moyens de les faire. Et puis, on était dans une boutique éphémère avec Emmaüs, qui a été à Place d'Arc, qui maintenant est en centre-ville, en face, dans l'ancien Once Again, en face des Galeries Lafayette. C'est un ancien Mango aussi, pour ceux qui connaissent. Et voilà, maintenant, après un an d'attente et de travail sur le dossier administratif, on a réussi à ouvrir, donc en février, 480 mètres carrés de boutique de réemploi à Saint-Jean-de-Bray, à côté de nos locaux de valorisation.
Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. J'invite les auditeurs auditrices à se retourner vers le site de la Rédac Pop parce que vous mettez aussi en place des partenariats, notamment avec d'autres associations pour l'accompagnement au logement, pour meubler par exemple des personnes qui viennent d'arriver d'un appartement. Exactement. Je sais de quoi je parle, c'est mon cas, c'est super pratique, c'est le bonheur quand même d'aller dans une ressourcerie. On a le choix, c'est pas cher. Et puis on sait que ça sert à quelque chose, surtout que ça a du sens. On n'est pas dans la mode, comme on appelle ça, fast fashion, mais plutôt dans le slow fashion. Ça a son charme aussi.
Voilà. Donc on dit réemploi, mais on appelle c'est plutôt ça réemploi solidaire, parce qu'on cherche aussi à faire entendre notre différence par rapport au réemploi lucratif. Il y a de plus en plus de grandes enseignes qui montent des friperies, qui montent tout un tas d'initiatives pour capter des objets et les revendre directement. Alors c'est bien. Ça va pas à la déchetterie et ça fait un peu moins de production, mais ça vide un peu de son sens aussi le réemploi que nous on pratique, qui prend soin de l'humain aussi.
Oui, parce que donc il y a le réemploi capitaliste et puis le réemploi qui se situe plutôt dans l'économie sociale et solidaire, où le but n'est pas de s'enrichir, mais plutôt de nourrir un projet.
Le but, c'est que tous les bénéfices qu'on retire de la vente de nos objets nourrissent le projet. Qu'il soit sociétal, social ou environnemental. Il y a vraiment trois facettes à ça.
Voilà, il n'est pas seulement environnemental, hein, il est aussi social, vous l'avez dit, et puis j'ai oublié.
Sociétal et environnemental. Sociétal pour montrer aux gens que on peut reprendre le pouvoir sur nos objets, les réparer, les faire durer plus longtemps. Et puis social parce que on équipe des gens qui n'ont rien, et même pas des jouets pour les enfants. Donc avec tout ce qu'on a en déchetterie, la pléthore de choses qu'on jette, qu'on détruit, qu'on brûle, nous on en détourne une partie, on arrive à en détourner une partie pour ça. Et ça devrait être beaucoup plus fait.
Mais ça marche bien. Hein. Je sais que les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes dans les ressourceries, à Emmaüs, ça devient à la mode et tant mieux.
Mais les ressourceries, en fait, elles touchent aussi bien des gens dans le besoin, qui ont juste besoin d'assiettes et de gamelles pour pouvoir manger, et puis des gens qui cherchent des petits objets sympas, des trucs un peu vintage, des collectionneurs aussi. On a même les brocanteurs et les antiquaires, j'en parle même pas, ils viennent beaucoup chez nous. Donc oui, ça plaît à beaucoup de public.
Et vous, Emeline, alors, en tant qu'animatrice, est-ce que vous pourriez nous parler de vos missions au sein de la ressourcerie ?
Tout à fait. Donc, on a un public très divers parce qu'on va toucher des enfants, on va intervenir sur le temps périscolaire, sur les centres de loisirs, pour sensibiliser les enfants sur leur emploi. On peut intervenir avec les bailleurs sociaux en pied d'immeuble où on va pareil faire des ateliers de ce qu'on appelle de l'upcycling, donc détourner l'usage premier d'un objet pour en faire autre chose. Et aussi intervenir sur par exemple le comptoir du réemploi, une de nos boutiques à Saint-Privé-Saint-Mémin, où on va faire des ateliers aussi ouverts à tous les publics, où on a aussi un atelier permanent, récurrent. À la source, à Ressource Toi, donc un appartement de démonstration. Comment on appelle ça déjà ?
Maison témoin ?
Ouais, voilà, un appartement témoin. Donc là, on fait des ateliers régulièrement aussi. Donc on touche des personnes qui sont à la retraite, des personnes actives, des personnes, des enfants, donc pour sensibiliser sur le réemploi et changer nos manières de consommer.
Très bien, merci à vous. Peut-être qu'on peut rappeler à nos auditeurs auditrices que dans toutes les déchetteries, il existe un point justement où au lieu
alors,
de jeter...
Toutes.
Alors dans beaucoup de déchetteries,
toutes.
Pardon, mais dans beaucoup de déchetteries, vous pouvez déjà laisser vos objets en bon état, enfin les objets qui peuvent être justement réemployés dans des espaces dédiés. Ça aussi, c'est un progrès qui a été fait dans les déchetteries. Et puis, il y a souvent la queue aux déchetteries, alors qu'il y a moins souvent la queue à la ressourcerie. Mmh. Et donc, si vous voulez vous débarrasser de certains objets, de livres encombrants, au lieu et je le rappelle, c'est interdit d'aller encombrer des bibliothèques de rue parce que voilà, vous n'avez plus la place chez vous et que la bibliothèque de rue, c'est pas fait, c'est pas un dépotoir non plus. Allez les mettre à la ressourcerie. C'est pareil pour vos vêtements. De toute façon, si vous les mettez dans les bacs, parce qu'il y a des bacs de recyclage aussi, ils arriveront à la ressourcerie.
Non, ils non arrivent chez nos collègues du tremplin.
Du tremplin.
Le tremplin
oui,
qui s'occupe de toutes les bennes. Mais, et nous-mêmes, on capte une partie de textile. Et ce qu'on n'arrive pas à réemployer, ça va chez eux.
C'est le même écosystème, tout
voilà,
ça.
Voilà, c'est dans l'écosystème.
Donc, arrêtez de jeter, essayez de donner tant qu'il est temps. Les enfants grandissent et donc les modes ne changent pas forcément. Hein, ce qui allait à un petit qui ne va plus, par exemple, à Antoine, parce qu'il aussi veut changer, je ne sais pas, de style, de look, etc. Hop, on ne jette pas, on arrête de jeter aujourd'hui. Ça finit incinéré. Je crois que les températures de ce jour ne me contrediront pas. Contrediront pas, voilà, il faut avoir cet esprit-là, justement, cet esprit. C'est une culture, hein, petit à petit, les choses évoluent. Je rappelle qu'on vous on retrouve donc du mercredi au samedi de 10h à 19h au 21 avenue Gay-Lussac et les lundis-mardis.
Lundi-mardi pour les apports volontaires, 9h30, 16h30.
Voilà. Et plus d'informations sur ressourcerie AAA.
La ressource AAA.fr.
Voilà. Merci à vous, merci à Antoine, merci à Johan et merci à Emeline. Vous êtes
merci.
Toujours sur Radio Campus 88.3.
Merci, bonne soirée.
Radio Campus dans tes oreilles. Radio Campus, la radio des rêves. Radio Campus 88.3.
Radio Campus 88.3, toujours en direct depuis la plaine du Pont-Bordeaux, en ce samedi 7 octobre, à l'occasion de la manifestation Heurbreil, manifestation consacrée à l'expression de la multitude et de la diversité des cultures urbaines. Et donc, on a parlé graphe, on a parlé DJ, on a parlé recycling, enfin, comment est-ce qu'on peut justement customiser ses vêtements. Et nous ne pouvions pas faire l'impasse sur la voie, les voies du cyclisme, à savoir le Bike Art.
Hello.
Bonjour à tous.
L'association Bike Art qui est présente avec
Mathieu,
Hugo
et Nicolas.
Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que Bike Art ?
Alors Bike Art, c'est une structure de démonstration et d'initiation qui est basée à Toulouse. On propose principalement du VTT trial, donc des démonstrations de VTT trial, ainsi que du BMX freestyle. Des fois, on a des intervenants en trottinette freestyle, notamment Kylian Chevalreau. Et on fait des initiations donc pour tous les âges, que ça peut être du VTT trial, et on a aussi une structure modulable en pump track. Donc on a un pump track modulable, donc ce qui nous propose de faire des initiations pump track dans toutes les villes.
Ah oui, le pump track. Je ne sais pas ce qu'est le pump track.
Qu'est-ce que c'est qu'un pump track?
J'ai voulu faire style,
c'est
ça
quelque chose
pas.
Qui pousse dans toutes les communes comme un petit champignon. C'est en fait un champ de bosse qui ne permet pas forcément de faire des sauts, mais qui permet de faire des tours sur un circuit sans pédaler, donc juste en pompant, c'est-à-dire en reprenant de la vitesse au bon moment dans les courbes. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un pump track.
C'est très sympa.
Le principe est le même, on se sert de l'énergie humaine. Hein.
Exactement.
Parce que le vélo, quand même, c'est une des meilleures inventions du monde, non ?
Le vélo, ouais, moi je...
Et pour la planète, et pour la santé, que des points bénéfiques.
Et puis pour se déplacer, quand même. Enfin, je veux dire, moi j'en suis à 5 km/h à pied... en étant mollasson, je fais 15 km, enfin je triple la distance et mon rapport au temps.
C'est vrai que c'est assez dingue. Bon, en vélo trial, donc moi c'est ma spécialité, ça va pas être le cas. Nous, ça va être plus du franchissement d'obstacles, mais voilà, ça c'est de l'énergie verte musculaire humaine qui est infinie jusqu'à temps qu'on soit en forme, bien évidemment. Mais ouais, c'est un super sport et on est content de contribuer à pousser dans la voie du vélo.
Et oui, parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Et c'est bon pour la nature, enfin pour les humains, pour même socialement, parce que donc vous êtes une association, c'est ça ? C'est une entreprise ?
C'est une entreprise, ouais.
C'est une entreprise, mais bon, c'est sympa quand même.
Ah oui, oui.
Comme milieu professionnel.
Nous, on propose du coup des démonstrations sportives, en fait. mais on intervient toujours dans le champ culturel. Donc ça s'appelle Bike Art parce que on sort du circuit de compétition, notamment en VTT Trial où il y a une fédération et tout ça. Mais là, sur les démonstrations, ce qu'on propose, c'est un show. C'est quelque chose en communion avec le public. Et moi, à côté, je fais du BMX freestyle flat, c'est-à-dire sur sol plat. Et voilà, pour moi, c'est plus du tout un sport. Je le mets au même titre que n'importe quelle pratique de mouvement artistique.
Mmh, voilà. Bien sûr, d'accord. C'est assez spectaculaire, quand même.
Oui, c'est à vous de le dire, c'est au public de le dire. Mais nous,
quand même.
Du trial, on regarde le BMX freestyle flat d'un air waouh. On en apprend tous les jours et c'est magnifique à voir. On a l'impression vraiment qu'il fait qu'un avec le vélo. Et si vous avez la chance de voir, venez voir ça.
Et qu'est-ce que vous leur apprenez aux jeunes qui sont venus cet après-midi sur votre stand? Qu'est-ce que vous leur avez appris?
Alors, aux jeunes, d'habitude, on leur apprend déjà à appréhender une nouvelle sorte de vélo, parce que toute discipline, du coup, appelle à des vélos et des setups différents. Donc déjà, appréhender un vélo, par exemple, sur mon BMX, il n'y a pas de frein. Sur les VTT Trial, il n'y a pas de selle. Donc déjà, faire ça. Et puis du coup, les bases de la discipline, le langage un peu de chaque discipline. En freestyle, voilà, il y a des types de figures, il y a des figures pour commencer. En VTT Trial, c'est pareil.
Donc, chaque discipline voilà. A vraiment son lexique et son vocabulaire approprié. Donc des fois on s'y perd et moi le premier quand je change de discipline je suis encore en train de me dire oh là là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que c'est.
C'est les JO l'année prochaine, il n'y a pas de vélo aux JO?
Alors il y a aux JO, il y a du BMX freestyle en parc, donc, c'est-à-dire sur un skatepark. Il n'y a pas du BMX flat, il y a les championnats du monde de BMX flat, mais le BMX flat ne sera pas aux Jeux Olympiques. Et je ne crois pas qu'il y ait de VTT Trial.
Non, nous on est aussi au championnat du monde et on est regroupé avec le BMX Flat au championnat du monde.
Mais il y aura le BMX Freestyle au JO.
Exactement.
Au même titre qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, le rap s'est invité aussi dans, je sais plus quoi, c'est quoi ce grand rendez-vous de la chanson française là
Victoire de la musique.
Victoire hein. De la musique, voilà. Je pensais notamment à, je crois que c'est peut-être Sefiu qui a fait son entrée. Enfin voilà, le hip-hop, les arts de rue s'invitent dans les grands moments de représentation de... Alors, Steven.
Alors, si je dis pas de bêtises, maintenant, au Victoire de la musique, il n'y a plus justement de catégorie musique rap et musique urbaine. Ils ont supprimé justement, et même musique du monde, je crois que ça a été supprimé. Donc, alors oui, le rap est au Victoire de la musique, mais concourt avec d'autres musiques aujourd'hui.
Ouais, au même titre finalement que le BMX Freestyle n'est plus dans une catégorie sport urbain ou quelque chose, mais fait partie du cyclisme français.
Eh bien très bien, et est-ce que pour vous c'est une évolution positive?
Alors, pour
parce
moi
que
c'est
une reconnaissance.
C'est une certaine reconnaissance, ouais, parce que ça, au début c'était une sous-culture, et du coup voilà, au fur et à mesure d'événements, de prouver en fait que... c'est une vraie culture, il y a des pratiquants et tout ça, c'est une certaine forme de reconnaissance et de légitimité de cette activité. Ouais.
Mmh. Ouais, concernant le vélo trial, nous on a toujours fait partie de la Fédération Française de Cyclisme au niveau national et international de l'UCI. Nous en fait on est toujours resté dans ce moule-là, on va dire, plus réglementé, plus compétition. Voilà. Mmh. Mais justement on tend à s'ouvrir sur le sport urbain puisqu'on fait désormais partie du monde de sport urbain, de cyclisme urbain pour être plus précis. Donc à l'occasion, par exemple, il y a eu Glasgow récemment, avec les championnats du monde de cyclisme et de toutes les catégories de cyclisme, que ce soit de la route, de l'enduro, de la descente, du pararoute,
du
BMX, voilà. Donc c'est quand même une avancée dans le sens où en fait on est plus mélangé et je pense que c'est bien pour l'échange de culture qu'il peut y avoir entre tous ces sports.
Mmh. On s'est aperçu au cours de cette émission qu'il y avait des évolutions dans la prise en compte justement des centres d'intérêt de la jeunesse et notamment de leur culture, à savoir leurs cultures urbaines, et que bah, maintenant les graffeurs sont invités dans les écoles ou les centres de loisirs à apprendre aux jeunes à faire du graff. J'ai même entendu un délégué du préfet dire réappropriez-vous le graff. Alors qu'à une époque, enfin, mon âge, c'était interdit. Hein. C'est toujours passible d'amende, d'ailleurs. Mais allez-y, bref. Et on voit aussi des municipalités, donc, par exemple, faire des terrains de
pump track.
Pump track.
De pump track, ouais.
Pump track. Ou même des espaces consacrés au skateboard ou justement au bike art.
Ouais, comme à Paris, par exemple, à République ou Bastille, où à la base, c'était les skateurs qui squattaient là. Et puis au fur et à mesure, la ville a mis en place en fait, des structures pour qu'ils skatent, fait pour ça.
Mmh.
Voilà.
Il y a toute une dimension sportive quand même dans les cultures urbaines. On peut penser au basket de rue, au foot de rue, au vélo de rue. C'est quoi la différence justement entre un sport qu'on fait dans la rue et un sport qu'on fait en club ? Est-ce que vous en faites en club ?
Ouais, voilà, moi je suis vraiment la partie full compète, full club. Et la différence c'est qu'en fait on va pas du tout avoir les mêmes contraintes parce qu'on peut vite penser à tort que la rue n'égale pas de contraintes. Mais au final, pour moi, chaque milieu a ses contraintes. Et ce serait approprier le sport pour moi. On sait avoir une vision totalement différente et s'ouvrir à de nouveaux horizons tout en restant sur sa discipline phare. Mais il y a en fait énormément de moyens d'appréhender cette discipline et je trouve ça c'est quand même sympa quoi.
Mathieu, le bike art, on est peut-être dans quelque chose de plus artistique ?
Oui, enfin en tout cas pour ma part, oui, j'ai beaucoup de mes collègues, on va dire, de BMX qui font partie du circuit sportif et qui sont dans ce game. Moi, je suis intermittent du spectacle. À côté de ça, je travaille dans une compagnie de cirque contemporain. Et voilà, du coup, je me suis approprié ma pratique de cette façon. Voilà, j'ai aussi fait de la compétition et c'est un jeu que j'aimais beaucoup et que j'ai quitté maintenant pour me consacrer uniquement à partager en fait mon travail avec un public directement et de cette façon, sans une contrainte technique dans le milieu des riders. Voilà.
On l'avait vu dans les années 90 avec le basket aussi, où le basket de rue s'invitait sur les terrains avec des performances de Michael Jordan, etc., qui étaient assez spectaculaires. La beauté du geste, voilà, cette manière de rester presque deux secondes en l'air, de faire des pirouettes, etc. Voilà, ça menait un petit plus au sport, cette dimension esthétique.
Mais finalement, alors on va pas faire la sociologie de comptoir, mais
on y va.
Allez, on y va, let's
on
go.
Adore.
On sort le pastis. Mais je pense que avec Internet, l'information qui se diffuse vachement plus, je pense que les nouvelles générations sont vachement plus attirées par effectivement voir du basket impressionnant, la beauté du geste, plus que peut-être le sport. Voilà, c'est une dimension qui existe aussi dans le sport fédéré et tout ça, mais je pense qu'il y a une attirance des nouvelles générations vers voilà, les trick shots, les mouvements incroyables, etc.
Et caetera.
Vous êtes eu la deuxième ou troisième entreprise association qui vient de Toulouse. Il se passe quoi à Toulouse ? C'est waouh, il y a beaucoup de choses concernant les arts de rue apparemment. Puisqu'on vous a invité jusqu'à ici à Saint-Jean-de-Bray, c'est que vous êtes un crew, vous êtes une équipe, vous connaissez les uns les unes les autres. Vous avez dit ouais, t'inquiète, pour le graphe, moi je connais un tel, pour le scratching, je connais un tel. Vous pouvez nous parler un peu de la scène des arts de rue toulousaine ?
Alors, au niveau du festival, en tout cas, on est resté entre nous, entre cyclistes. On connaît, enfin moi en tout cas personnellement, je connais pas trop de graffeurs, mais par contre je sais qu'à Toulouse il y a une énorme scène de graff, de musique, de hip-hop. Il y a beaucoup de réunions qui se passent sur les quais de la Dorade, donc le long de la Garonne, avec des activités en tout genre de rue, toujours d'art de rue, de spectacle. Et c'est vrai que c'est très dynamique comme ville, ça pousse encore, ça grandit, c'est très étudiant. En fait c'est un mélange pour moi qui marche, un mélange gagnant, où en fait tout le monde trouve son compte, son activité, et tout le monde en fait arrive à se réunir quand même au même endroit. Et donc des fois c'est pas étonnant de voir une troupe qui va danser de la salsa à une place et 10 mètres plus loin ça va être, je sais pas moi, du roller freestyle entre les plots, enfin c'est super top. Ouais.
Avec une culture du collectif dans le sud, peut-être.
Ah, c'est les copains.
Ouais c'est ça.
Ouais, une culture du sans pression un peu, tu vois.
100% collègues.
Toulouse à la loose, tu vois. Ouais, c'est ça.
Très bien, merci messieurs. Donc je rappelle que voilà, nous recevions l'entreprise Bike Art, et elle est toulousaine et promeut à la fois les arts donc liés au cyclisme tels que le
BMX freestyle
et le VTT trial
et le BMX freestyle park et le dirt et le parcours et la trot freestyle. Tout est possible.
Multidiversité.
Et à la table de mixage freestyle, c'était Freestyle Steven.
Ouais, merci Steven.
Radio Campus dans tes oreilles. Radio Campus, la radio des jeunes. Radio Campus 88.3.
Eh Radio Campus 88.3, toujours en direct depuis la plaine du Pont-Bordeaux à Saint-Jean-de-Bray, où nous avons déposé les micros de notre studio mobile pour une série d'interviews consacrées au village des expositions en place à l'occasion de la fête des cultures urbaines à Saint-Jean-de-Bray. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir monsieur Espérant Dieu de l'ASCA qui anime un atelier numérique et ludique. Bonjour. Alors, le micro bleu, c'est le numéro 4. Steven, voilà, c'est la fin de la journée, on te pardonne tout, ne t'inquiète pas. Alors, quel est cet espace numérique et ludique ?
Et bah, du coup, l'idée, ça va être de communiquer autour des écrans, notamment auprès des familles, de voir un petit peu comment chacun utilise, qu'est-ce qu'il y a comme écran à la maison, quelles sont les utilisations. Et puis, voilà, sans être dans le jugement, mais c'est de voir un petit peu si on peut donner des petits conseils, voilà, discuter, c'est surtout la discussion avec les différentes personnes, parents et enfants.
À destination des familles, alors pourquoi jouer avec le numérique à l'échelle de la famille ? Les enfants jouent dans leur coin, les parents se servent de leur portable, comment est-ce qu'on peut jouer ensemble avec les outils numériques ?
Bah, déjà, faut trouver un fonctionnement où on fait des activités ensemble, au-delà du numérique. Que c'est pas toujours facile du coup pour les familles, voilà, il y a différentes situations, des familles monoparentales, des fratries, donc voilà, donc moi je travaille au niveau du quartier, hein, donc je parle par rapport à la réalité que je peux connaître et des familles qu'on reçoit. Après là, cet après-midi, on a du coup plutôt reçu des familles un peu, on va dire, extérieures qu'on connaît pas forcément, où là on voit que les parents s'intéressent à ce que font leurs enfants, et du coup ça veut pas dire nécessairement qu'ils font ensemble, mais ça veut dire qu'au moins chacun sait un petit peu ce qui s'y passe, et je pense que c'est une des choses les plus importantes au-delà du nombre d'heures passées devant les écrans. Voilà, il peut y avoir des risques, mais comme différentes choses dans la vie, quoi. Et là, enfin moi, ce qui m'a marqué en tout cas cet après-midi, c'est que les familles sont assez conscientes, les parents et les enfants, de l'utilisation qui en est faite. Et donc je pense que c'est un enjeu pour des familles où c'est pas le cas en fait.
Alors quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer les familles concernant le numérique ?
Bah, en fait, des problématiques qu'ils retrouvent dans la vie en général en fait. Comment on arrive notamment sur les limites ? Comment on arrive à dire non à l'enfant. Mais dire non, c'est pas juste dire non, mais c'est aussi l'accompagner peut-être vers autre chose. Et après, bah, sur le quartier, il y a énormément de handicaps qui font que bah, ça peut être économique, mais ça peut être aussi culturel, parce que amener des enfants vers du jeu, c'est quelque chose qui me semble important. Mais déjà, il faut que les familles le sentent de le faire. Il peut y avoir aussi des barrières au niveau de la langue. Et voilà, et du coup, le travail, c'est un petit peu ça, en fait, c'est d'accompagner. Et après, même sur le numérique en soi, il y a des enfants qui se sentent très bien dans les jeux vidéo. Donc, c'est quelque chose qui peut être positif. Mais c'est important que les parents sachent un petit peu à quoi joue l'enfant et qu'ils puissent échanger autour de ça. Ça peut être la même chose pour des séries qu'on regarde à la télé, des jeux sur lesquels on joue sur le téléphone. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une part de contrôle de la part des parents, et sans perdre l'idée d'autonomie aussi du côté enfant. Bah, c'est facile à dire, mais voilà. Enfin,
Bon, l'idée, c'est tout simplement peut-être de mettre en place un dialogue apaisé, serein sur ces questions-là.
Ouais, c'est
qui
ça.
Peuvent des fois créer des crispations ou des tensions dont on pourrait se passer.
Il y a un peu d'infos quand même aussi, il y a quand même une partie prévention. C'est-à-dire qu'en général, alors j'ai l'impression que c'est, moi je maîtrise moins, mais c'est plutôt sur les adolescents. Les familles ne sont pas forcément bien au courant de ce qui peut se passer. Et du coup, eux par contre, de manière générale, les adolescents vont mieux savoir ce qui se passe sur les réseaux que leurs parents. Et du coup, il y a un petit truc à travailler là-dessus pour que tout le monde se sente bien par rapport à ça. Mais ça passe par le dialogue.
Et donc vous travaillez pour l'ASCA, hein ?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord, c'est votre mission au sein de l'ASCA ?
J'ai plusieurs missions, mais je travaille surtout avec les enfants et les familles, oui.
Mmh. Et il est très gentil, on me dit, dans le studio.
C'est gentil,
papa. Je sais pas qui c'est qui dit ça, comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Fousseni.
Alors pourquoi est-ce qu'il est très gentil ?
Parce qu'il nous aide à faire les devoirs.
Donc ça fait aussi partie de votre mission. Et ça, est-ce que ça vous aide justement quand il vous aide à faire les devoirs ? Comment est-ce qu'il vous aide à faire les devoirs ? Donc il fait les devoirs à votre place ?
Non,
On fait des devoirs. C'est nous qui font les devoirs. Mais on a besoin d'un peu d'aide. On a besoin des autres animateurs qui sont de l'ASCA et ils nous aident. Et après, c'est comme ça.
Est-ce que du coup, les notes, elles sont meilleures?
Oui.
Tiens, vas-y. Oui. Est-ce que donc ça t'aide toi dans certaines matières, par exemple?
Oui.
Oui. Dans quelle classe?
J'en sais ma.
D'accord. Donc t'es en primaire. T'apprends la lecture, l'écriture, le calcul.
Oui.
D'accord. Et donc l'aide aux devoirs, qu'est-ce que ça t'apporte?
Bah.
Par rapport à la maison, par exemple.
Ça m'aide beaucoup.
Ouais.
À travailler, c'est plus facile.
Et pourquoi c'est plus facile?
Parce qu'on a tous besoin d'aide.
Oui, c'est vrai. Quand on est des élèves, s'il y a beaucoup de choses qu'on apprend en cours la journée, le prof, il est tout seul avec 25 élèves. Et c'est peut-être là, justement, ouais.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, oui.
C'est la vérité. Et du coup, ben. Quand je suis à la maison, ben. Et en fait, c'est. J'arrive pas trop à travailler. Donc, mes parents, ils ont décidé de m'amener à l'ASCA. Et maintenant, je commence à m'améliorer. Et c'est grâce à l'ASCA que je m'améliore.
Eh bien, c'est très bien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la France a besoin de futurs ingénieurs, députés. Enfin, voilà qu'il y a beaucoup d'avocats, de médecins. Mais bon, vous êtes encore un peu jeune pour réfléchir à tout ça. Mais ça commence à l'école, hein, avant de savoir faire un métier. Et puis surtout, l'école, ça permet d'être libre. Ben oui, savoir lire et écrire, ça aide, hein, dans la vie.
Oui, ça aide vraiment beaucoup.
Très bien, merci pour vos témoignages qui illustrent bien d'ailleurs le travail de
ton prénom, ce sera Nicolas.
De Nicolas, voilà, animateur à Alaska, qui est venu nous parler donc de l'atelier ludique et numérique qu'il anime tout au long de l'année à Alaska.
Oui. Après, ça fait partie des projets. On a un projet autour de ça. Oui.
D'accord, très bien. Et c'était notre dernière émission. Donc, puisque vous êtes là, c'est quoi vos prénoms, les garçons?
Moi, c'est Erel.
Erel et...
Moi, c'est Jareli.
Et Jareli, eh ben, vous allez me faire un jingle. On va faire un jingle Radio Campus, comme ça, en direct. Tu nous mets un petit fond musical, Steven, voilà. Voilà, et vous allez répéter après moi. Radio Campus.
Radio Campus.
Radio Campus 88.3. Radio Campus dans tes oreilles.
Radio Campus dans tes oreilles.
Radio Campus, la radio des jeunes.
Radio Campus, la radio des jeunes.
Écoute Radio Campus.
Écoute Radio Campus.
Radio Campus 88.3.
Radio Campus 88.3.
Que des pros derrière le micro.
Que des pros derrière le micro.
Représente la jeunesse.
Représente la jeunesse.
Positive vibration.
Positive vibration.
Positive attitude.
Positive attitude.
On aime le hip-hop.
On aime le hip-hop.
Les arts de rue.
Les arts de rue.
Toutes les cultures.
Toutes les cultures.
Dans tes oreilles.
Dans tes oreilles.
Sur.
Sur.
Radio Campus 88.3.
Radio Campus 88.3.
Et ben voilà, merci à vous les jeunes.
De rien.
De rien. Radio Campus dans tes oreilles. Radio Campus, la radio des jeunes. Radio Campus 88.3.
Et on continue avec l'obsession. Loop Sessions. Il y a un S à la fin,
je sais. Oui, il y a un S.
Il y a un S à la fin. Et donc, on se retrouve avec Fanny, Valentin et Salah.
Bonjour. Bonjour.
Ça se passe bien, le festival?
Ça se passe très, très bien.
Alors, première question, ça va être tout simple. Hein. Est-ce que vous pouvez présenter votre association? Association, hein.
Ouais, c'est une association, collective association. Bah, du coup, Loop Sessions, c'est... C'est une association maintenant et du coup aujourd'hui il y a Loop Session Paris et il y a Loop Session Toulouse aussi, on s'est réunis pour cette occasion. Donc en fait Loop Session c'est un concept qui vient du Brésil en fait. C'est, le concept vient des événements de la Casa Brasilis à Sao Paulo. Et en fait ils ont repris le concept, donc le concept c'était qu'il y ait un vinyle, 4 heures pour faire une production musicale à partir de ce vinyle là. Et après une session d'écoute. Donc en fait ils ont repris ce concept là, ils l'ont exporté à Montréal. Et après, petit à petit, ça s'est exporté à travers le monde entier. Du coup, en fait, il y en a à Paris, à Bruxelles, partout au Canada, beaucoup en Amérique latine aussi. Et du coup, en France, il y a Toulouse et Paris. Et donc, nous, on a repris le concept depuis 2017 et ça marche plutôt bien à Paris. Et aujourd'hui, on a été invité par Urban Art pour faire le festival et on a invité la Loop Station Toulouse aussi.
Selon vous, pour être beatmaker, il faut-il avoir de la sagesse ou être patient ?
Bah vas-y Valentin, on te laisse répondre.
Avoir de la sagesse ou être patient, pas forcément. Pour certains, c'est justement, pour certains, c'est justement une libération de faire de la musique et mettre un gros kick et comme ça, ça envoie, ça libère l'esprit. Et pour certains, justement, ça va être une espèce de sagesse, ceux qui font du lofi ou ceux qui font d'autres styles musicaux un peu plus calmes. Donc il n'y a pas forcément de définition du beatmaker au niveau comportemental.
Oui, y a, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de prérequis pour être beatmaker, c'est ça ?
Pas de prérequis, c'est ça, oui, c'est ça. C'est accessible à tout le monde.
Et comment vous y prenez, du coup, pour mettre en avant ? C'est quoi vos tactiques, on va dire ?
Bah déjà, on organise un événement qui est basé sur cette pratique-là durant toute la journée. Ça dépend, on peut mettre en place, par exemple, des tables rondes avec des intervenants qui viennent de tout milieu musicaux confondus. Enfin, toutes sortes d'acteurs de l'industrie musicale. Donc là, ça permet vraiment au public de comprendre tous les enjeux qu'être beatmaker ou beatmakeuse aujourd'hui. Après, on les met aussi sur nos réseaux sociaux, on les valorise beaucoup sur nos réseaux sociaux. Et aussi, ce qui est très cool, c'est qu'on leur permet de se rencontrer entre eux. Ça crée un réseau énorme de beatmakers, beatmakeuses, et c'est ça qui est aussi trop cool et trop valorisant pour eux et pour nous.
Et aussi, nous, je crois que vous faites ça à Paris aussi, nous, pour valoriser encore plus les beatmakers, on organise des open mic aussi pour permettre de faire le lien entre les beatmakers et les rappeurs. Parce que souvent, les rappeurs, ils ont tendance à acheter des prods sur les réseaux, sur Internet. Donc là, ça fait vraiment un vrai lien social, quoi.
Et aujourd'hui, vous bossez sur un son de Sniper, si je dis pas de bêtises ?
Ouais, ils vont s'en train de sampler le vinyle de Sniper gravé dans la roche.
Ouais, et ça se passe comment du coup ? Expliquez-nous un petit peu comment ça. C'est quoi tout le processus ?
En fait, ça dépend. Soit ils prennent le fichier qui est déjà numérisé sur une clé USB, du coup, ils ont, pendant les 4 heures, ils peuvent piocher un peu partout dans le vinyle. Ou sinon, il y en a d'autres qui vont sampler directement sur la platine, du coup, ils ont 5-10 minutes. Ils font tourner le vinyle, ils samplent les morceaux qu'ils veulent et après ils font ce qu'ils veulent avec leur logiciel de MAO.
D'accord. Un truc sur lequel on ne s'est pas attardé, mais y a Loop Session Toulouse ouais. Et Paris. Ouais. Vous venez tous de Paris ou il y en a de Toulouse ? J'ai cru comprendre Valentin
Toulouse.
Est de Toulouse.
Je suis venu avec mon collègue Geoffrey, du coup on est de Toulouse là. On est arrivé ce matin en bus. Mais donc voilà, c'est l'occasion pour rencontrer Paris et pour rencontrer aussi les gens d'ici et faire le lien un peu entre les assos, quoi.
Mais j'ai pas très bien compris. C'est la même association qui est divisée en deux villes, un peu à l'image de Radio Campus Orléans, Rennes, etc. Non, c'est ça.
Non, en fait, c'est le concept qui s'est exporté, mais en fait, on est totalement tous des entités différentes. Par exemple, on a des contacts avec la Loop Station de Montréal. Mais on est tous indépendants, on a le même concept, mais nos événements sont différents et on n'a pas forcément le même modèle.
Pour vous, pour être beatmaker, faut-il utiliser un sampler ou juste, comme vous l'avez dit, le vinyle ?
En soi, pour utiliser un sampler, il faut un vinyle parce que... Enfin, il faut un vinyle ou disons au moins un son numérisé. Donc, en soi, le support n'est pas important, si tu veux. Si c'est ça que ta question, en fait, le support n'est pas vraiment important. Même des fois, il y a des logiciels comme Splice ou comme plein d'autres logiciels qui permettent d'avoir des samples déjà préfaits, donc où tu n'as pas besoin d'acheter des vinyles. Donc, du coup, ça, c'est là que c'est assez accessible aussi pour tout le monde.
Parce que, vu que je vous dis ça, actuellement, dans le monde de la musique, il y a de plus en plus de samples. Donc c'est pour ça que je pars dans ce principe-là.
T'as vraiment raison de le dire, c'est vraiment intéressant. Il y a même de nouvelles techniques et de nouvelles approches de la musique qui arrivent chaque jour. Et c'est ce qui se passe, il y a aussi beaucoup plus de compos qu'à une époque où on faisait du sample. Je pense que dans les années 90-80 c'était presque une norme de sampler, il y avait plus de problèmes ou pas, ou c'était plus évident ou pas. Et aujourd'hui il y a un milliard d'autres méthodes et c'est là où c'est intéressant puisqu'on voit des beatmakers qui font jamais la même chose.
Après tu peux faire de la prod sans sampler, tu vois, tu peux partir d'une base totalement neutre sans rajouter un sample, en fait t'es pas obligé de sampler forcément pour être beatmaker.
Je vous remercie beaucoup, donc c'était Loop Sessions. On a eu Fanny, Valentin et Salah. je vous remercie beaucoup. Bon courage
merci
à vous,
hein,
vous
en tout bon cas festival.
Pour le festival.
Merci.
Hâte de voir ce que vous allez donner avec, avec Gravé dans la Roche. Hein.
Bah, rendez-vous merci à 19h sur la grande scène.
Ça marche, le rendez-vous est pris.
Merci.
Merci.
Radio Campus dans tes oreilles. Radio Campus, la radio des rêves. Radio Campus 88.3.
Et on enchaîne, il est actuellement 15h36 et on se retrouve avec Orlinside. On les avait déjà interviewés, vous les connaissez, mais on va faire quand même un petit tour de table parce qu'on a des nouveaux que j'ai jamais vus. Donc avec nous, pour parler, nous avons Julien.
Bonjour tout le monde.
Yann.
Bonjour.
Jesse.
Bonjour à tout le monde.
Et Clément.
Salut tout le monde.
Alors, je ne vais pas diriger cette interview, je vais laisser le micro à Clarence qui va vous poser quelques petites questions.
C'est parti.
Let's go.
Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre association ?
Alors, je me présente, je m'appelle Yann Joumet, j'ai 25 ans. Je suis président de l'association Rollinside avec comme rôle manager des productions. Voilà.
Et pour reprendre sur l'activité de l'association, en fait, Orlinside, ça part d'un constat. On a constaté qu'il y avait beaucoup de talent, beaucoup d'énergie autour de la ville d'Orléans, des personnes qui voulaient faire des choses, défendre des projets. Et on a constaté que ces personnes-là étaient un peu isolées. Et nous, on a voulu mettre en avant toutes ces personnes qui faisaient des projets autour d'un média. Initialement qui s'appelle All Inside, où on a fait des interviews, où on fait des événements pour mettre en avant un peu cette culture orléanaise. Voilà, pour All Inside en gros.
C'est ça.
Quelles sont les actions que vous faites chacun parmi vous dans l'association ?
Dans l'association.
Alors il y a plusieurs départements, il y a un département communication, un département production et un département plus organisation, management. Et ça s'articule selon les activités, donc interview, couverture médiatique d'événements, co-organisation d'événements, et tout ça, en fait, il y a de la technique, donc tous ceux qui gèrent tout ce qui est caméra, audiovisuel, etc. Il y a du management, management d'équipe, management stratégique sur des décisions qui vont être prises sur les mois à venir, et de la communication surtout, c'est surtout sur quoi on s'appuie, parce que c'est une petite ville, c'est une province et on sait que l'information tourne super rapidement, donc c'est important d'être efficace sur ce point-là.
Il a tout dit, là, alors franchement là, que dire. Non, en fait, à la base, on est tous passionnés de musique en fait, donc on a tous commencé avec des compétences différentes, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des beatmakers, il y a des ingé-sons, il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'audiovisuel, et en fait, toute cette énergie-là, on l'a réunie entre nous pour pouvoir créer des concepts vidéo, donc des émissions musicales par exemple, qui s'appelle Flash. Aussi des concepts, d'autres concepts qui sont à venir actuellement, on travaille. Mais voilà, en gros, c'est ça l'idée, quoi. C'est de réunir toutes nos compétences pour pouvoir mettre en avant le projet Orlinside et toutes les personnes qui travaillent avec nous à travers nos réseaux.
Sans non plus disperser toutes les activités parce qu'on sait que ça demande du travail et qu'il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Donc on est juridiquement présent en tant qu'association depuis 2019. Et là, petit à petit, on passe les étapes et on est en reconversion vers une boîte de production polyvalente sur plusieurs domaines d'activité, que ce soit du corpo, l'artistique, etc., etc.
Voilà.
Pensez-vous que le projet que vous faites actuellement sera-t-il le meilleur de toute l'association ?
Ah, c'est intéressant. Ce qui est cool, c'est que...
C'est bonne question, ça.
Non, je pense que tu parles de Urbray, là, ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est ça ?
Non.
Tu parles de quoi ?
Précise la question, s'il te plaît.
C'est-à-dire le projet que vous travaillez actuellement.
Ah, donc le projet
à venir. Est-ce que il sera-t-il le meilleur de toute la station, selon vous ?
Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais. On travaille sur plusieurs projets, en fait. Vas-y.
En vrai, avec le boulot qu'on a fait pendant ces quelques mois, on a aussi construit quelque chose de très solide. Mm-hmm. On a refait toute une nouvelle DA, on a refait un. Ouais, en parlant de Flash.
C'est la branche
d'Orlinside, une des branches d'Orlinside, mm-hmm. du coup. Et je pense que pour l'instant, c'est le plus gros projet qu'on a pu construire avec Orlinside.
On n'a jamais été aussi fiers de nous, en fait, par rapport à un projet, je pense.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment professionnel. Et on peut le constater par rapport à ce qu'on faisait avant sur cette émission Flash. La différence, elle est folle en termes de qualité, en termes de tout. Donc, pour l'instant, ouais, c'est clair que ça fait partie des gros projets qu'on porte et dont on est fiers de porter.
Et pour répondre à la question, dire que c'est le meilleur, c'est...
ça sera bien que le prochain, on espère.
Voilà, ouais, c'est ça, on essaie de faire mieux chaque jour, mais du moins, c'est le projet qui nous tient le plus à cœur pour l'instant. Et demain, ça sera peut-être autre chose, mais pour l'instant, c'est celui-là.
C'est ça.
Non, mais continue, tu devrais très bien.
Tu t'en sors bien.
Ouais, tu t'entends très bien.
Non, oh, continue, non, mais déroule, improvise.
Ok. Sur le festival, hein, ouais. Sur le festival, pouvez-vous nous présenter votre stand?
Ok. Alors, nous avons trois créateurs. On a invité trois personnes avec qui on a pas mal de fois collaboré. Ce sont des créateurs que vous avez reçus, je crois, ici. Et donc on a Belle Nip, qui est couturier, qui fait de la création à partir de upcycling. Donc c'est des vêtements je sais pas exactement, qui récupère, voilà.
Une deuxième vie, c'est une seconde vie.
Ouais, seconde vie, c'est ça.
Après, il prend à partir de n'importe. Bah, je pense que vous avez interviewé de toute façon. Mais des vêtements à partir de n'importe quel tissu, de toute façon. Et il recycle pour en faire de belles créations.
Voilà. C'est ça.
Désolé.
Et on a aussi Margot Minta, qui est une customisatrice de chaussures. Donc elle fait de la rénovation de chaussures aussi. Et si voilà, vous avez des inspirations, vous voulez faire des dessins, enfin créer une paire unique, bah, d'une paire de base, elle peut faire tout ce que vous souhaitez en fait. Et donc là, elle est venue exposer. Elle fait aussi de la peinture, elle fait des tableaux.
Des tableaux, c'est ça. Ouais.
Des tableaux. Et la troisième personne, c'est Sismo. Bah, Yann, je te laisse présenter.
Sismo, qui est un designer, créateur. Et qui est en train de se professionnaliser de plus en plus après avoir fait deux événements au Riverlands, au centre d'Orléans, et qui est en train d'évoluer vers une vraie marque streetwear. Sismo, on est en coproduction avec lui sur les événements, mais c'est un créateur qui a un avenir très
prometteur.
Très prometteur.
Très prometteur.
Très prometteur sur.
Il y a beaucoup de talent.
Il y a beaucoup de talent au niveau de l'inspiration, au niveau de plein de choses.
Et on croit à fond en ces projets, donc c'est pour ça qu'on est fiers de les mettre en avant et on espère que les gens sont allés les voir. Et ça a bien marché pour l'instant, donc on est très contents.
Vu que pour vous c'est une passion, pensez-vous que ça fait partie maintenant de la culture?
Qu'est-ce qui fait partie de la culture? Tout ce projet-là, totalement, c'est important. Je pense que c'est important, nous qui sommes jeunes, dans des projets plutôt jeunes, c'est important de pouvoir porter tous les projets culturels qui sont... parce que sinon on le fait pas. Si d'autres le font pas, il faut que ce soit nous les jeunes qui représentons ce que portent les jeunes aujourd'hui culturellement. Donc oui, c'est important de devoir faire ça. Et ce genre de manifestation aujourd'hui, c'est aussi super important de pouvoir mettre la scène de musique urbaine en avant, notamment la scène émergente dont nous on a fait la programmation. Donc on est à fond dans cette énergie-là et on est fiers. Ouais.
Et pour reprendre ce qu'il a dit, on peut remarquer que c'est souvent autour de trois axes, la mode, le sport et la musique. Et là, on le revoit encore sur cette manifestation, il y a ces trois éléments qui sont présents. Et en tout cas, on essaie de faire partie de ce mouvement-là, de pousser les gens à l'initiative et à s'intéresser et à progresser dans leur domaine d'activité, quel qu'il soit.
C'est ça, à se lancer, quoi.
Voilà.
Merci Clarence.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci Clarence, on peut l'applaudir, Clarence, je pense.
Il est bon.
C'était All Inside. Donc on a reçu Julien, Yann, Clément et Jesse. Je vous remercie beaucoup d'être passé.
Radio Campus dans tes oreilles. Radio Campus, la radio des jeunes. Radio Campus 88.3.
Radio Campus 88.3 FM. Le moulin à parole. Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées. Le moulin à parole. We'll be right back.
Thank you. dreams, the shelter that confines my mind and its tears, cause each fluttering sigh of you is my curse, and the seconds of silence a collapsing universe. Will you come into my arms, rub my soul? Will you care? Will you think? Will you fall?